Alors ce matin, eh bien, nous allons commencer une nouvelle série de prédications. Alors c'est une série un peu particulière. Moi je ne le fais pas d'habitude, mais je pense qu'avec Michel Gentil, nous avons réfléchi sur un thème que nous pourrions aborder durant ces prochaines semaines. Alors c'est vrai que nous voulons donner en fait un enseignement équilibré. Donc à l'Église, donc prédication de l'Ancien Testament, prédication du Nouveau Testament, mais aussi des prédications thématiques. Et donc dans ce cadre-là, je pense que vous le savez, eh bien, nous avons à cœur l'Église. Nous avons à cœur de réfléchir sur le rôle que Dieu donne à son Église. Et donc dans ce cadre-là, nous avons découvert que d'ici quelques mois, il y aura cette conférence de Lausanne, au Cap, en fait en Afrique du Sud. Et donc il s'agit du troisième congrès, Lausanne, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui a donc pour but de vraiment réfléchir sur le dessein de Dieu pour l'Église, pour le monde. Et donc avec Michel, eh bien, nous avons estimé qu'il était important peut-être Donc, de mettre en place cette série de prédications sur la déclaration de Lausanne qui est profondément enracinée dans la Bible, donc profondément enracinée dans l'Écriture. Et comme vous pouvez le lire donc, sur votre bulletin de ce matin, il y a donc l'article numéro 1 qui résume un peu le thème qui sera partagé ce matin, uni dans le dessein de Dieu. Et puis il y a aussi une question qui nous est posée. Alors si vous voulez répondre par mail à ces questions, donc voilà en fait à Michel ou à moi, ben, ce serait sympathique. Voilà, comme ça nous pouvons continuer aussi avec le conseil d'anciens à en fait réfléchir sur ce que Dieu attend de l'Église en général, mais aussi de notre Église, l'Église de La Rochette. En fait les temps changent, les années passent, et les défis aussi changent. Et je pense que dans ce cadre-là, si chaque fois que nous abordons un thème dans cette série, eh bien, vous pouvez répondre à la question qui vous est posée, eh bien, je pense que cela nous aiderait dans notre réflexion au sein même du Conseil d'Anciens ainsi que dans d'autres domaines de l'Église. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible ce matin. Donc il y aura un passage dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Donc nous lisons Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, verset 37. Ésaïe chapitre 40, verset 27 pardon, à 31. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi répètes-tu Israël, ma destinée est cachée au Seigneur? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Car le Seigneur Yahweh, le Dieu de pérennité qui crée les extrémités de la terre, il ne s'épuise ni se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Deuxième passage, lettre aux Éphésiens, donc épître aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, pour lui selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son rang, par son sang, pardon, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Prions ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que oui, certainement encore tu veux nous inspirer ce matin au travers de ces quelques versets qui viennent d'être lus. Oui Seigneur, tu aimes ton Église et parce que tu as aimé ton Église, tu as donné ta vie pour elle, tu as donné ta vie pour nous. Eh bien Seigneur, nous voulons être à ton écoute, toi qui nous aimes, nous voulons nous mettre à ton service, toi qui nous aimes. Alors Seigneur, ce matin, parle-nous. Nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Unis pour le faire connaître. Voilà un thème qui est important pour nous en tant qu'Église, mais je pense pour le Seigneur aussi. Et cela fait longtemps que les Églises de tradition protestante réfléchissent sur l'unité de l'Église. Nous sommes des protestants, n'est-ce pas ? Nous sommes des protestants, nous sommes une branche du protestantisme, mais nous sommes des protestants. Et depuis le début, eh bien, dans le monde protestant, nous avons réfléchi, les chrétiens ont réfléchi sur l'unité de l'Église. Dès le début, eh bien, des chrétiens de tradition protestante ont mis en place un certain nombre de conférences missionnaires afin de savoir comment l'Église pourrait au mieux annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y eut des conférences missionnaires au XIXe siècle et toutes ces conférences ont en fait conduit à un congrès qui a eu lieu en 1910, en fait en Écosse, à Édimbourg. Et c'est lors de cette conférence que l'un des chefs de file, John Mott, a dit ceci: lorsque la conférence touchera à sa fin, nous commencerons la conquête du monde. Alors voilà un terme que nous n'aurions plus vraiment utilisé aujourd'hui dans nos milieux, parce qu'il fait référence à peut-être certains événements tristes qui en ont été conduits par l'Église chrétienne par le passé. Mais bon, voilà, il y avait une vision en 1910 où beaucoup d'églises de tradition protestante, dont les nôtres, ont essayé de réfléchir sur comment le monde pourrait être touché par l'Évangile que nous sommes censés annoncer. Mais cette vision a petit à petit disparu. Pourquoi ? Parce que d'abord il y eut deux guerres mondiales qui ont donc conduit au fait que l'Église a donc perdu une grande partie de ses ressources et aussi une grande partie de sa motivation. Mais je pense qu'il y avait aussi des questions théologiques qui étaient là. Lors de ce congrès de 1910, eh bien, les responsables ont estimé que cela ne valait pas la peine de discuter doctrine, que cela ne valait pas la peine de discuter sur la nature même de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile ? Et donc, il est vrai que petit à petit, eh bien, la théologie libérale a pris de la place dans les universités, dans les églises, et la mission a été petit à petit laissée sur le côté. Et donc c'est là que, en fait, un grand nombre de responsables de tendances évangéliques se sont dit: il faut absolument que nous puissions à nouveau réfléchir sur le dessein de Dieu pour l'Église et pour ce monde. Il y a eu d'autres conférences missionnaires, mais un jour, un homme qui s'appelle Billy Graham, considéré par certains comme le pape des protestants, alors qu'il n'y a quand même pas de pape chez les protestants, je pense que vous le savez, mais Billy Graham a contacté plus de 200 responsables chrétiens évangéliques de par le monde, et il leur a posé cette question: est-ce que vous pensez qu'il serait bien d'organiser un grand congrès d'évangélisation pour le monde qui rassemble un grand nombre de responsables provenant du monde entier, pas seulement des pays riches, mais également des pays les plus pauvres? Et tous ont répondu oui, il le faut absolument. Et donc, ce congrès a eu lieu en 1974 à Lausanne. Et ce congrès a rassemblé plus ou moins 2700 participants, même un peu plus selon d'autres. Enfin, disons que ça n'a pas d'importance. Mais donc, c'est à Lausanne qu'avec ces plus de 2700 participants, chrétiens évangéliques engagés dans le ministère, qui se sont dit: nous allons réfléchir ensemble sur comment nous pourrions au mieux annoncer l'évangile dans ce monde, et sur comment aussi nous pourrions mieux définir l'Évangile afin que nous puissions l'apporter au monde. Et donc de là est sortie cette déclaration de Lausanne en 1974. Suite à ce congrès de 1974, le mouvement de Lausanne est né, qui a organisé d'autres rencontres, d'autres conférences missionnaires qui vont conduire à un autre grand congrès, qui va continuer à réfléchir sur le même sujet en 1989 à Manille, où là, le mot d'ordre, le slogan sera « Appeler l'Église entière à proclamer l'Évangile entier au monde entier ». L'Église entière, chaque membre d'Église, chaque chrétien. Et là, on parle aussi de ce partenariat entre Église riche et Église pauvre, afin qu'ensemble, elles puissent apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a aussi l'Évangile entier, dont le cœur est la croix. Tout découle de la croix, que cela soit notre salut personnel, que cela soit la réconciliation de toute la création. Et lorsque l'on parle de l'Évangile entier, c'est là que petit à petit les évangéliques commencent à parler de la responsabilité sociale de l'Église. Par le passé, les évangéliques disaient: nous devons tout simplement proclamer verbalement l'Évangile et rien de plus. Et pourtant dans la Bible, il nous est parlé d'un Dieu qui non seulement veut sauver des âmes, oui certainement, mais d'un Dieu qui veut bénir toutes les nations, d'un Dieu qui veut bénir chacune de ses créatures. Et dans toute l'Écriture, nous pouvons remarquer que Dieu est sensible aussi à tous les problèmes socio-économiques qui touchent notre monde. Dieu désire que le plus de personnes possible viennent à sa rencontre, mais Dieu désire aussi changer en profondeur notre société. Il en est suffisamment parlé dans l'Écriture. Donc en 2010, il y aura cette conférence au Cap qui va rassembler 4000 représentants évangéliques. Donc je pense qu'il faut prier pour cela. Et si nous commençons cette série aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez donc aller sur le site internet de Lausanne, qui est donc sur votre bulletin, et que vous puissiez déjà participer à un certain nombre de questions qui sont posées sur le site, sur donc cette question: comment pourrions-nous au mieux annoncer l'Évangile aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre, et comment pourrions-nous contribuer à la transformation de notre société par l'Évangile? Alors voilà, le Christ nous invite à faire des disciples de toutes les nations. Le Christ nous invite à témoigner, à proclamer aussi cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je pense à cette citation, écrite il y a quelques années par un pasteur anglican. En fait, il dit ceci: Il y a cinq parties dans la Bible. D'abord, il y a le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu missionnaire, parce qu'il appelle une seule famille, afin que toutes les autres familles du monde puissent être bénies. Ensuite, il y a le Christ des Évangiles, qui est un Christ missionnaire, qui envoie son Église à témoigner dans le monde. Ensuite, il y a l'Esprit des Actes, qui est un esprit missionnaire qui veut conduire son Église en dehors de Jérusalem pour aller jusqu'à Rome. Ensuite, il y a l'Église des Épîtres, qui est une Église missionnaire, qui a un ministère international, qui a pour but d'annoncer l'Évangile jusqu'au bout du monde. Ensuite, il y a la fin de l'Apocalypse. Une fin qui est missionnaire, n'est-ce pas ? Car il est écrit au début du livre de l'Apocalypse que devant le trône de Dieu viendront des personnes provenant de toutes les nations. Alors voilà, la religion de la Bible, dit cet auteur, est une religion missionnaire. La mission est au cœur de la pensée de Dieu. La mission doit être le cœur même de la raison d'être de l'Église. Et donc, la mission n'est pas un hobby de quelques fanatiques excentriques, mais la mission est pour tous, est pour chaque personne de l'Église. Il n'y a pas d'Église sans mission. Voilà ce qu'il dit dans cette citation. Alors voilà. Le Christ nous appelle à être unis pour le faire connaître. Unis pour le faire connaître. Mais alors comment ? Comment pourrions-nous être vraiment unis, que cela soit Église de la Rochette, que cela soit toute Église de tendance évangélique ? Comment pouvons-nous faire pour être unis, pour faire connaître le Christ là où il nous envoie ? Eh bien, il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas ? Il faut commencer par Dieu, car nous ne pouvons pas parler de mission et d'évangélisation sans parler d'abord de Dieu, n'est-ce pas ? Donc je pense que d'abord, pour que nous puissions être unis pour le faire connaître, eh bien, il nous faut d'abord être unis dans notre compréhension de la personne de Dieu et du dessein de Dieu. Être unis dans le dessein de Dieu, voilà notre premier appel, afin que nous puissions remplir la mission que Dieu nous confie. Alors comment faire ? Eh bien d'abord, qui est Dieu ? Voilà une question qui peut paraître banale, n'est-ce pas ? Qui est Dieu ? Alors en fait, il est vrai qu'il n'est pas facile de répondre à cette question, mais je pense que dans la Bible, eh bien, il y a quelques pistes qui nous permettent en fait, de cerner quelques points qui nous décrivent l'identité de Dieu. Dieu est d'abord éternel. Il est actif en toutes circonstances. Il est l'éternel Dieu qui existe au-delà du temps. Il est l'éternel Dieu qui existe avant le temps. Et n'est-ce pas le psalmiste qui dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Donc Dieu est transcendant. Il est celui qui est avant toute chose, mais Dieu est également immanent. Il est celui qui a créé tous les détails de la vie de cet univers, n'est-ce pas ? Il est immanent, il est actif dans l'histoire, il a créé toutes choses au sein même de cette histoire. Et je pense que ces deux vérités, elles nous sont bien rassemblées dans cette parole que nous avons lue ce matin, en fait dans la prophétie d'Ésaïe, où en fait, il est dit ceci, « C'est le Seigneur, le Dieu de pérennité qui crée les extrémités de la terre. » Dieu est éternel. Mais Dieu est à la fois un et trois. C'est ce que nous pouvons aussi lire en fait dans la Bible, n'est-ce pas ? Dieu est un et Dieu est trois. Et l'unité de Dieu ne peut pas être remise en doute lorsque nous lisons l'Écriture, lorsque nous lisons toute la Bible. N'est-ce pas Moïse qui dit ceci dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 ? Il dit « Je suis le Seigneur Yahweh, il n'y en a pas d'autre ». Enfin, ça, c'est Ésaïe qui le dit. Mais il y a Moïse qui dit un peu plus tôt, « Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Voilà. Le Seigneur est un. Il y a un seul Dieu. Et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien Dieu a le droit d'attendre de chacune de ses créatures qu'elle s'attache à lui. Dieu est un, et puis Dieu est trois. Il se révèle de trois manières différentes dans l'Écriture, n'est-ce pas ? Il y a le Dieu d'Israël, le Père. Il y a le Dieu incarné, Jésus le Christ. Et il y a le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est un, Dieu est trois. Et n'est-ce pas Jésus qui dit à ses disciples, baptisez-les au nom qui est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Dieu est éternel et actif en toutes circonstances. Dieu est à la fois un et trois. Et puis comme nous l'avons lu il y a quelques semaines, eh bien, Dieu règne sur toutes choses. Dieu est le roi de l'entièreté de l'univers. Il règne sur la nature, il règne sur l'histoire. Il gouverne toutes choses selon le dessein de sa volonté, comme dit Paul en fait aux Éphésiens, comme en fait nous l'avons lu ce matin. Et même les apôtres furent absolument convaincus que la persécution qu'ils devaient subir faisait aussi partie du plan de Dieu. C'est ce qui est écrit, c'est ce que Pierre dit dans Acte 4, 28, où Pierre dit ceci, « Contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, donc en fait tout ce que la main de Dieu, tout ce que ta main et les décisions avaient arrêté d'avance. » Donc voilà, une première chose. Il faut que nous puissions déjà être d'accord dans notre compréhension sur l'identité de Dieu, et il faut que nous puissions être d'accord déjà sur le fait que Dieu est éternel, que Dieu est à la fois un et trois, et que Dieu règne sur la nature, règne sur l'histoire. Mais alors, quel est son projet ? Quel est son projet pour ce monde ? Quel est son projet pour l'Église ? Bon, je pense que vous connaissez ce passage dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, où il est écrit que Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Enfin, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il désire que tout le monde soit sauvé. Mais comment met-il en place son projet pour nous et pour ce monde ? Il se choisit un peuple, n'est-ce pas ? Dieu parle à Abraham et il lui dit, je te donnerai une descendance nombreuse et cette descendance sera une bénédiction pour toutes les autres nations. Cette œuvre se poursuit lorsque Dieu, encore une fois, s'adresse à son peuple sur le mont Sinaï. Où là, il dit ceci dans Exode 19, il dit, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Et lorsque vous lisez alors le livre des Actes au chapitre 15 par exemple, là il nous est parlé encore une fois de cette promesse que Dieu donne à Abraham et qui s'accomplit. Parce qu'il est dit ceci, Siméon a raconté comment Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Et puis lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 7, verset 9, et bien là, il nous est parlé que devant le trône de Dieu est rassemblé des gens provenant de toutes les nations. Et c'est là que la promesse que Dieu fait à Abraham s'accomplit pleinement. Le dessein de Dieu est que le monde entier soit donc touché par son amour, soit donc touché par sa grâce, mais pour cela, il se permet de choisir un peuple peut-être fragile, un peuple peut-être faible, mais il a décidé de choisir ce peuple-là. Comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Éphésiens ce matin, Dieu fait grâce. Il nous fait grâce, il nous ouvre la porte de son royaume par amour pour nous, grâce au sang de son Fils qui coule à la croix pour nous. C'est ainsi qu'il nous sauve, pour que nous puissions marcher sur le chemin de sainteté, pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a sauvés afin que nous puissions le louer. Et donc, il nous a sauvés afin que nous puissions le servir. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous nous vivons en pleine communion avec Dieu, nous aurons envie de le faire connaître là où il nous envoie. Voilà ce que Paul dit lorsqu'il nous dit que nous avons été créés, afin qu'un jour nous puissions être saints et irréprochables devant Dieu, mais afin que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. Et donc le Christ, bien qu'il nous ait sauvés de ce monde, il nous y envoie à nouveau, n'est-ce pas? Et bon, ben, Jésus en parle beaucoup avec le Père dans Jean 17. Hein, il dit ceci, « Mais je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, mais garde-les en ton nom, comme tu les as envoyés dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Lorsque Jésus nous envoie dans ce monde, eh bien, nous parlons de la mission de l'Église. Mais qu'est-ce que la mission de l'Église? Lorsque nous parlons de la mission de l'Église, eh bien, souvenons-nous de ce que Christ est venu faire pour nous. Il est venu en tant que serviteur. Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais il dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 38, il dit que Jésus est venu pour témoigner de la vérité. Témoin et serviteur. Évangélisation et responsabilité sociale de l'Église. Et nous en parlerons dans quelques semaines. Mais donc, dans toute la Bible, eh bien, en fait, nous remarquons ceci, c'est que le Christ nous appelle à être non-conformistes. Il ne veut pas que nous nous conformions à ce monde. Dieu le dit à de nombreuses reprises, en fait. Déjà dans l'Ancien Testament, il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Il dit encore en fait, à son peuple « Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, vous ne ferez pas ce qui se fait en Canaan, où je vous amène, vous ne suivrez pas leurs prescriptions, vous mettrez mes règles en pratique et vous observerez mes prescriptions, vous les suivrez. » N'est-ce pas Jésus qui dit sur la montagne, ne faites pas comme eux, comme eux. Et puis n'est-ce pas l'apôtre Paul qui dit aux Romains, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Ne pas se conformer au monde et pourtant être dans le monde pour être serviteur et témoin. Voilà un grand défi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être aujourd'hui en fait, des témoins fidèles du Christ? Je pense qu'il y a d'abord le pluralisme. Aujourd'hui, si nous disons « Jésus est le seul chemin qui mène au Père, Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu », nous nous ferons reprendre vertement par beaucoup de personnes. Ça, c'est le premier défi. Comment faire dans ce monde pluraliste? Et c'est vrai voilà, que ce n'est pas facile. Deuxième chose, peut-être, qui est un défi pour nous aujourd'hui, c'est le matérialisme, évidemment. Jésus rappelle sans cesse de ne pas amasser en fait, des trésors sur la terre. La Bible nous appelle à une vie de simplicité, de générosité, mais ce n'est pas facile à ne pas se laisser aller par ce matérialisme ambiant, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi ce troisième défi, c'est cette éthique, cette vie éthique relativiste, où en fait, les gens disent, tu choisis les valeurs de ta vie en fonction de où tu te trouves, en fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu ressens, en fonction de comment tu le ressens, en fonction de l'éducation que tu as reçue, et puis ainsi de suite. Pas facile, n'est-ce pas, d'être intègre en tant que chrétien lorsque l'on nous partage tout cela. Et puis, un quatrième défi, c'est le narcissisme. Narcisse qui s'est vu dans les eaux de l'étang et qu'il s'est dit, ah, waouh, je suis beau. Je suis beau. Et je pense que nous sommes un peu comme ça parfois, n'est-ce pas? Nous nous disons, mais j'ai en moi toutes les capacités pour faire les choses qu'il faut. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ce qui est complètement contraire, n'est-ce pas, à ces deux commandements que Jésus rappelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors voilà, ce sont des défis, n'est-ce pas? Alors comment faire pour relever tous ces défis? Eh bien, l'Écriture nous dit ceci. Faites tout cela dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. À donc entrer dans le dessein de Dieu ensemble, afin que ensemble nous puissions apporter l'Évangile là où le Seigneur nous conduit. Mais pour cela, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes, comme le dit l'apôtre Paul, en fait des êtres faibles, des êtres fragiles. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des êtres fragiles que nous devons être dispensés de nos responsabilités, n'est-ce pas? Au contraire, ne nous laissons pas paralyser par notre passé, ne nous laissons pas paralyser par nos faiblesses, mais attachons-nous au Christ. Et une chose est sûre, le Saint-Esprit nous aidera à entrer dans ce dessein et à répondre à l'appel que Christ nous adresse. Alors voilà, comment être unis pour le faire connaître? Eh bien, ce matin, soyons unis dans le dessein de Dieu, ce Dieu qui est éternel, ce Dieu qui est donc transcendant, immanent, qui est un, qui est trois, qui contrôle l'entièreté de la nature et de l'histoire. Ce Dieu qui a précisé son projet, son dessein, sa volonté pour ce monde, pour nous. Il nous dit, allez de l'avant, ne vous conformez pas au monde présent, attachez-vous à moi, œuvrez dans la puissance du Saint-Esprit et vous verrez. Le Seigneur, je ferai, dit le Seigneur, mon œuvre parmi vous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, merci pour le dessein qui nous concerne, qui concerne ce monde. Oui, Seigneur, certainement ce matin, eh bien, nous nous disons, nous sommes faibles, fragiles, nous ne sommes pas dignes, dignes d'être appelés par toi pour te servir, pour proclamer cet évangile que toi, tu nous as confié, qui est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais Seigneur, merci parce que dans ta grâce et dans ton amour, toi qui nous as pardonné de nos fautes par le sang qui a coulé pour nous à la croix, eh bien Seigneur, tu nous appelles et tu nous rends capables de répondre à ton appel. Alors Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de toi pour que, Seigneur, ton œuvre brille en fait de par notre personne et que ton amour touche encore des cœurs auprès de ces personnes qui sont proches ou loin de nous. Nous voulons te le prier en ton nom. Amen.